Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. 12e partie, la Trinité diabolique. Suite.
Le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Je vais lire donc ce passage et puis je vais apporter quelques commentaires. Voilà, nous en sommes à peu près à la moitié. Simplement pour mémoire, on fait ça tous les mercredis soirs, mais comme je vais me absenter pendant quelques temps, alors j'aimerais terminer au moins le chapitre qu'on a commencé il y a déjà 2 ou 3 semaines. Alors Apocalypse, chapitre 13, on va lire cette première partie. Pour tout simplement nous remémorer déjà ce que nous avons vu ensemble. Alors voilà, donc Apocalypse 13, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité à toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle l'obligeait, la terre et ses habitants, à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et nous nous étions arrêtés finalement sur ce verset 13. Et je vais simplement faire un petit rappel. C'est un livre qui exclut toute spéculation, le livre de l'Apocalypse. La Bible se répond par elle-même. Et il est important dans les temps dans lesquels nous vivons d'avoir une observation, finalement, de ce qui se passe autour de nous, parce que je crois que nous sommes beaucoup plus près du retour de Jésus-Christ que lorsque ces paroles ont été finalement consignées dans ce livre de l'Apocalypse par le visionnaire, par l'apôtre Jean. Simplement vous dire et vous rappeler que le chapitre 13 nous instruit sur les agents et les instruments dont le diable, qui est appelé le dragon au chapitre précédent, le chapitre 12, donc sur les agents et les instruments que se sert le diable pour subjuguer puis dominer l'humanité. On a passé brièvement ce paragraphe, on l'a lu quand même rapidement, mais nous en avons parlé longuement, et on s'aperçoit que ce qui est véritablement surprenant, c'est cette attraction quasi magnétique des hommes pour le mensonge, pour tout ce qui frappe la vue, et qui est tout à fait le contraire et aux antipodes de ce que la Bible nous enseigne, l'Évangile nous enseigne, Jésus nous enseigne, parce que je crois qu'il faut avoir du recul et pouvoir finalement, à l'aide de l'Écriture et de ce que le Saint-Esprit nous éclaire sur l'Écriture, parce que ce n'est pas une approche légaliste, mais c'est une approche dans l'esprit des temps dans lesquels nous vivons, Et je pense que cela n'est pas fait pour nous faire peur. Cela n'est pas fait pour que nous redoutions le retour de Jésus-Christ, mais que nous l'attendions avec espérance. Et de fortifier notre foi et nous mobiliser plus que jamais à prêcher et annoncer le salut en Jésus-Christ dans un monde qui en a tant besoin. Voici, la terre est livrée au pouvoir et au vouloir du diable. C'est ce que nous avons lu il y a un instant. Dans le but toujours, et ça depuis les temps immémoriaux, d'attirer à l'adversaire, l'adoration du monde entier et d'imposer à tous les peuples, à toutes les nations, sa gouvernance. Oui, de vouloir reprendre la main ou d'avoir la main sur les hommes pour l'adorer et tout simplement, eh bien, là, le servir. Je le rappelle, apparaît deux bêtes. L'une monte de la mer, elle symbolise l'empire et le système mondial. Je ferai une déclinaison, le système mondain, système du monde. On parle beaucoup de mondialisation dans notre temps. Alors on va voir, et on a déjà vu ce qu'il en était. Cette première bête est ouvertement persécutrice, dictatoriale. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre, la deuxième, celle qui monte de la terre, est une personne, j'ajoute une personnalité, à la tête du système. On vient de parler d'un système, d'une économie, mais là, il s'agit d'une personne que l'on appelle l'Antéchrist. Tout le monde a entendu parler. La première bête est horriblement brutale. La deuxième serait son contraire en apparence. D'apparence inoffensive, mais séductrice, parce qu'elle est présentée sous l'aspect d'un agneau. Mais vous savez ce que Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, en ce qui concerne les faux prophètes. Il est question de ceux qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui à l'intérieur, après un examen, eh bien on s'aperçoit que ce sont des loups. Des loups cruels, des loups destructeurs, des loups ravageurs. Or, Jésus nous dit, méfiez-vous, ce n'est pas à leurs œuvres qu'on les reconnaît, c'est à leurs fruits. Et le fruit doit être celui, finalement, si nous nous disons chrétiens, eh bien celui de la personne de Christ en nous. C'est-à-dire, on pourrait peut-être là, simplement ajouté à travers les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, et puis il y en a neuf comme ça. L'une, la première bête, est la main de Satan. L'autre en est son esprit, c'est-à-dire l'inspiration. C'est peut-être une pensée très volatile, mais néanmoins, l'une c'est l'action et l'autre c'est l'inspiration. La bête qui monte de la mer persécute toute opposition à son pouvoir hégémonique par l'intermédiaire des politiques des gouvernements humains. Oui, à travers tout ce que le monde peut présenter, tout ce qu'il a présenté à travers l'histoire des hommes sur cette terre, tandis que la bête qui monte de la terre se cache subtilement derrière l'opacité de la philosophie, de la culture et des idéologies humanistes, voire même des fausses religions apostates, idolâtres. Quelles qu'en soient les formes et quelles que soient les expressions de cette manifestation. Alors il faut naturellement avoir une vision qui est une vision d'ensemble, à travers toutes les civilisations, à travers les temps. Ce n'est pas seulement notre temps à nous, mais l'histoire est très importante dans la compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Je passe très vite. Cet esprit antichrétien, parce qu'on peut le nommer de cette manière, entendez bien, esprit antichrétien, se manifeste soit parce que l'on pense, soit parce que l'on dit ou on écrit, et des écrits, il y en a, soit parce que l'on fait, avec la force Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité quasi magnétique du conformisme ambiant. C'est-à-dire que les hommes veulent être tous pareils, pour ne pas dénoter, vous comprenez. C'est le conformisme, cela. À travers les modes, à travers les courants de pensée, et il est de bon temps à chaque époque, eh bien, d'épouser finalement le plus grand nombre. Mais on pense que la majorité, c'est ce qui fait la loi. Alors, puisque la majorité est de ce côté, on se dit, mais c'est ça, c'est bien, c'est formidable. Jésus nous en parle savamment de tout cela, naturellement. Et c'est peut-être le danger. Donc, il s'agit d'une émergence, et c'est le titre de nos messages, c'est la Trinité diabolique, sachant que si la Trinité divine se décline dans la personne du Père, comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile de Matthieu, du Fils et du Saint-Esprit, la contrefaçon de cette Trinité divine se révèle ainsi. Le diable remplace le Père, l'Antéchrist remplace le Fils, et la bête qui monte de la mer, la première, le Saint-Esprit, qui correspond à un système caricatural qui œuvre pour réaliser, par la force et le mensonge le plus perfide, la stratégie de l'enfer. Voilà, c'était une petite approche pour résumer ce que nous avions dit déjà les fois précédentes. Alors maintenant, on a toujours notre Bible ouverte et on va continuer à lire. Et je reprends le verset 13 et il nous est dit ceci. « La bête qui monte de la terre, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Voilà, je ne voudrais pas vous effrayer ce matin et vous faire passer de mauvaises vacances. Mais il y a quand même des réalités. Il y a quand même des choses que l'Esprit nous enseigne. Et nous sommes là, finalement, un petit peu à l'image des Béréens pour examiner la véracité de l'Écriture au regard de notre monde dans lequel nous sommes impliqués. Hein, Jésus l'a dit, d'ailleurs, il le répète. « Je ne te prie pas, parce que c'est en notre faveur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Voilà la grande différence. Alors on reprend à partir du verset 14 et 15, je le relis à votre attention. « Cette bête séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soit tués. » Vous avez remarqué avec moi, il y a quelque chose qui est un lien très, très marqué. C'est que la marque conduit à l'adoration de la bête. Celui qui a la marque adore la bête. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier, alors qu'en ce qui concerne les enfants de Dieu, ce n'est pas une marque qui est déposée sur nous, c'est un sceau. La différence. Un sceau. Dans ces versets 14 et 15, il y a ici des mots-clés. Pouvoir donner. Il y a le mot image, animer l'image, faire parler l'image. D'abord, l'impact de cet extraordinaire, ce phénomène extraordinaire relève d'une source mystérieuse, voire occulte, qui stupéfiera le monde entier. On devine qui sera aux manettes derrière l'Antéchrist. Le monde n'est pas si innocent qu'on le pense. Il n'y a pas d'innocence dans le monde. Ce n'est pas possible. Et je crois qu'il y a deux mondes. Enfin, je dirais qu'il y en a trois. Il y a le monde divin, le monde de Dieu, de la sainteté, de la vérité, de tout celui que nous connaissons, dans lequel Dieu nous a fait grâce de rentrer, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et nous sommes fils et filles de son royaume. Et puis il y a le monde d'un autre, qui correspond à un autre royaume, avec un prince, avec toute une hiérarchie. C'est le monde diabolique, ténébreux, le monde du mensonge, le monde de la mort. Et puis au milieu, et puis il y a les hommes. Et ils sont tirés tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Nous, nous avons pris position. Mais il y a quand même des millions, voire des milliards d'êtres humains retenus dans l'obscurantisme et dans la méconnaissance de la parole de Dieu. Certainement avec peut-être un bon vouloir, mais se laissent aller comme les flots de la mer, vous comprenez ? Alors, si ce n'est pas l'influence de Dieu qui est sur nous, ce sera certainement une autre influence, hein, forcément. Et là, on comprend qui tient finalement les manettes, avec un message, et le message de la fin des temps sera probablement celui-ci, que le monde entier se fasse une image avec l'obligation de l'adorer. Oh, l'idolâtrie, c'est pas nouveau, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. À travers toutes les civilisations, et malheureusement on le trouve même au cœur d'Israël, Vaudor et puis le reste. Et aujourd'hui pourrait-on dire que les choses n'ont pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes sont aussi idolâtres que les générations ou les civilisations qui nous ont précédés. Je dirais peut-être, et à la fin des temps, ça sera encore davantage idolâtre. Sans véritablement que le monde en prenne conscience. Mais ce n'est pas n'importe quelle image. C'est celle de la bête blessée où il nous est dit qu'elle a été touchée par l'épée et elle vivait. Mais il y a eu un phénomène qui s'est produit à un moment donné. Et cela, c'est tout simplement la déification, puis l'adoration d'un système idéalisé, fondamentalement anti-Dieu, anti-chrétien, anti-Christ. Qu'il ait des aspects de philosophie, de théologie, religieux naturellement, politique, social, etc. La bête va faire être adorée comme étant le summum de la civilisation humaine sans morale ni conscience de Dieu. C'est une reproduction en quelque sorte de ce que les hommes ont voulu commencer au début de l'humanité avec Babel. Ouais, cette tour qui touche au sommet. Enfin, elle ne va pas très loin parce qu'on a découvert qu'il y avait encore de la distance. Mais toujours est-il que c'est l'orgueil. Cet orgueil éhonté de l'homme de dire, eh bien, nous n'avons pas besoin de Dieu, nous y arriverons sans lui. Il est question d'une épée qui a touché cette bête. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Qui, quelque part, c'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais peut-être elle peut être tout à fait cohérente. Cette parole de Dieu qui, un temps, a vaincu le paganisme à travers le christianisme, à travers le message de l'évangile inhérent aux sociétés humaines, et qui a finalement, à la fin des temps, se redressera pour infecter et pourrir à grande échelle le monde et dont l'antéchrist se fera le propagateur. Vous savez, depuis 20 siècles de christianisme, le monde a entendu l'évangile, a entendu le message de rédemption, le message de la croix. Il y a eu des millions et des millions de gens qui ont cru à cet évangile. Parce qu'avant l'évangile, c'était vraiment le monde dans le paganisme, dans l'occultisme, dans toutes sortes de choses épouvantables. Et nous pouvons dire que le christianisme, à un moment donné, par cette épée qu'est la parole de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu, a touché un temps le paganisme. Mais nous le voyons, parce que nous sommes véritablement dans l'époque aujourd'hui, où le christianisme, et que le reste-t-il du christianisme ? Oh, il y a un christianisme de nom, apostat. Et nous voyons que dans nos civilisations, dans nos sociétés occidentales, le christianisme prend du recul de plus en plus, désaffection totale et complète de la foi. Et ça, c'est dramatique. Les églises se vident. Les hommes ne croient de moins en moins en Dieu. Les sondages le montrent, les statistiques. Alors, cette bête a été touchée à un moment donné, et elle vivait, mais elle va reprendre de la force à la fin des temps. Mes frères et sœurs, soyons bien conscients qu'il y aura certainement un réveil qui viendra de la part du Seigneur, mais il y aura un réveil terrible d'occultisme et d'incrédulité, d'indifférence, de mépris de Dieu à la fin des temps aussi. C'est pour ça qu'il va falloir prendre position. De plus en plus, hein, Jésus l'illustre à travers l'histoire des vierges folles et des vierges sages. On peut tous avoir une lampe, mais s'il n'y a pas d'huile, ça n'ira pas. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la persévérance dans notre foi à croire la parole de Dieu. Alors on peut s'attendre à ce que l'image, alors je vais le décliner sous un autre nom, le logo, ou tout simplement, je n'ai pas dit le logo, hein, le logo, ou le sigle, du paganisme envahissent non seulement le cœur et l'esprit des hommes, mais aussi soient imprimés sur n'importe quel objet, sur n'importe quelle production, de quelque nature que ce soit. Je m'explique. Le monde produit aujourd'hui toutes sortes de choses de consommation. Parce qu'on vit pour... le monde est entraîné à la consommation. Et si le produit de cette consommation n'est pas pour glorifier Dieu, alors ça glorifie certainement autre chose, hein, ou quelqu'un d'autre. Et quand on voit la production du monde, tant en musique, dans les arts, enfin, tout ce qui peut être consommable et tout ce qui peut être, en effet, ingurgité comme nourriture morale ou nourriture spirituelle, et peut-être même la matérielle, parce qu'on parle de plus en plus de pollution, enfin c'est l'intoxication, c'est l'empoisonnement. Alors moi je dis que ça c'est aussi une marque. Le diable a mis une marque partout. Remarquez, il ne faut pas aller très loin pour se convaincre que ne serait-ce qu'en prenant un exemple, la musique, et de voir les adeptes de certaines musiques, je ne suis pas là pour juger, hein, mais nous constatons. Avec toute l'image que cela véhicule, l'esprit que cela véhicule, la drogue, les abus, les dépravations sexuelles, l'alcoolisme, les empreintes que les hommes se donnent sur leur corps à travers les tatouages, etc., et pas n'importe lesquels. Hein. Pas n'importe lesquels, à l'effigie de la mort, hein, où ressort le caractère morbide, et particulièrement sur... le corps de nos jeunes gens et de nos jeunes filles, je me dis, il y a quand même quelque chose, n'est-ce pas? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même une constatation de fait. Il nous est dit qu'il lui a été donné d'animer l'image et de faire que l'image parle. Donc il y a une animation et il y a une parole, c'est-à-dire de la rendre vivante, ou je ferai plutôt une rectification, comme vivante. Elle est comme vivante, comme si elle avait la vie en elle. C'est un mystère. Pas pour nous, mais c'est un mystère. Mystère de l'iniquité. Mystère de l'œuvre et de l'ouvrage de l'adversaire. Pour faire croire à ce qui n'est pas. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et le monde n'a jamais prétendu autant à la liberté, à la vie, qu'aujourd'hui, uniquement renfermé dans le corps, l'enveloppe, le reste, l'âme, on ne sait pas tellement ce qu'il en est. L'esprit, alors n'en parlez pas, parce que, si, oui, l'esprit, mais une spiritualité, ou plutôt un spiritualisme, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais une spiritualité qui vient d'ailleurs. D'abord, qu'est-ce qu'une image? Vous êtes sage. Vous me réjouissez profondément. Ça va, ça vous intéresse? Oui? Non? Bon. Qu'est-ce qu'une image? Alors, on va le décliner de différentes façons. Disons que c'est une reproduction, une représentation, une copie, une illustration, un tableau, un reflet, un portrait, un cliché, une effigie, une statue, une photographie. Alors, vous continuerez, vous mettrez la suite. Hein. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire, vous saurez ce que c'est. Sans restreindre à notre connaissance d'aujourd'hui, parce que je parlerai à des gens qui vivaient au XVIIIe siècle, c'était peut-être difficile. Hein. Et nous-mêmes, nous parlons dans notre XXIe siècle, et si le Seigneur n'est pas revenu peut-être dans 100 ans ou dans 1000 ans, eh bien, il y aura encore certainement un développement. Mais bon, je ne renferme rien dans le temps. une révolution qui n'a son équivalent qu'à la découverte de l'imprimerie, parce que ça a été aussi communication d'information, l'imprimerie. On sait que ça a été au grand bénéfice de la parole de Dieu, mais le reste aussi, naturellement. Notre siècle a vu naître le pouvoir de l'image. Il y a toujours eu des travaux, des peintres, etc., etc., mais le pouvoir de l'image. Depuis la grotte de Lascaux, on y a été à la peinture. Hein, d'accord. Et c'est une dimension mondiale universelle. On parle aujourd'hui, depuis la fin du XIXe siècle, de la photographie. Naturellement, la cinématographie, l'impact télévisuel, c'est une révolution culturelle et de l'information qui passe, comme nous allons le voir, par l'informatique. On ne peut pas dire que c'est de l'image, on ne peut ne pas dire plutôt que c'est de l'image animée, dans le bien tout autant que dans le mal. C'est ce que c'est qu'un dessin animé, hein. On commence déjà à donner cela à nos enfants. Bon, je ne veux pas apporter une valeur morale sur la question, mais c'est très amusant le dessin animé. Alors, ça suscite quand même pas mal de réflexions, tout cela. Parce qu'aujourd'hui, nous en arrivons dans un temps où on parle de visualisation, sans image, voire dans sa tête. On parle de pouvoir d'imaginer, ce qui revient au même, de pouvoir de manipuler le sentiment. Et le sentiment, il n'y a rien de plus trompeur. Entre nos impressions et la réalité, attention. Manipulation des idées, des opinions, des convictions offertes à la vue de milliards d'hommes simultanément. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut regarder la même image que l'on soit en Chine ou que l'on soit ici en France, hein. Ah, c'est quelque chose. Et dites ça à nos grands-pères, waouh, ils retourneraient dans leur tombe. Ils n'arriveraient pas à ingurgiter et à comprendre tout cela, naturellement. Mais aujourd'hui, c'est possible. L'info pénètre partout, reçue souvent comme une vérité, parce qu'il y a beaucoup d'habileté pour faire passer des choses. Ouais. On le voit, l'information d'aujourd'hui, elle est comme cela. Hein. Et attendez, on n'a pas fini, parce que 2012 n'est pas encore arrivé, hein. Comme vérité absolue, qui ébranle des siècles de statu quo. Parce que dans le temps, les gens étaient peut-être beaucoup plus fixés sur des convictions, des opinions. Mais aujourd'hui, on retourne sa veste, on change en fonction des vents et des marées. Pour nous, c'est les marées. Et ça revient quand même assez souvent dans la journée. À la fois bénéfique et salutaire, mais souvent dangereux, si utilisé à des fins dirigées. Et il y en a un qui sait faire les choses. Parce que Dieu a un but, Dieu a un plan, mais l'adversaire en a aussi un autre. Qui était totalement le contraire. Et c'est peut-être un des leviers dont s'emparera l'Antéchrist. Le maître mot est devenu écran. Oui, tout le monde a un écran chez soi. On l'a même dans notre poche en sortant le téléphone portable. Et sur le téléphone portable, on peut faire des choses. Hein. Vous vous rendez compte ? C'est miniaturisé. Il y a des gens qui sont là continuellement à marcher dans la rue. Voilà. Alors, il ne faut pas qu'ils traversent l'avenue de la République en ce moment parce qu'il y a des travaux. C'est marqué « travaux partout ». On est en train d'installer le tram, là. Alors, attention. Hein. C'est ça. C'est un petit peu comme cela qu'on aborde les choses. Et cet écran, quel qu'il soit, c'est la porte d'entrée d'un monde virtuel. Mais Dieu nous a demandé de vivre dans la réalité. Un chrétien est un homme réaliste, l'homme d'aujourd'hui. Nous avons un passé, nous avons un avenir, et quant à l'avenir, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de pas pour le lendemain, parce qu'il prendra soin de lui-même. » Maintenant, nous sommes des hommes d'aujourd'hui, des hommes de notre temps, impliqués dans notre vie professionnelle, sociale, d'une manière ou d'une autre, mais nous avons les pieds sur terre. Il faut quand même le rappeler. Et ce monde virtuel qui est venu particulièrement propulser l'humanité fortement à travers l'informatique, l'Internet, les communications câblées, sans contrôle moral, ou presque, ou très peu. Parce que vous rentrez n'importe où, vous faites n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de... sans référence morale. le monde s'achemine vers un avenir plus inquiétant, et les parents ont de quoi certainement se soucier, parce que plus que l'écran que nous regardons, l'image animée et qui parle, que l'on pourrait peut-être l'appeler audio, donc on entend et on voit audiovisuel, aura une incidence époustouflante sur la conformation, sur le nivelage, sur l'alignement, l'identification à un prétendu modèle présenté comme norme ou standard auquel, par esprit de conditionnement ou de conformisme ou de panurgisme, chacun voudra se reconnaître, c'est-à-dire ressembler à son idole. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des idoles au milieu de nous, des idoles vivantes. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des grandes stars de la chanson ou d'autres choses. Et ce qui est assez curieux, je ne juge pas, hein, mais ce qui est assez curieux, si vous avez par exemple pour idole monsieur un tel ou madame un tel, eh bien leurs groupies vont s'habiller comme lui. Ils vont se faire peut-être une banane s'il a une banane. Ils vont peut-être porter les mêmes vêtements, le cuir ou autre chose. Ils vont avoir le même langage. C'est comme en politique, hein. Les deux extrêmes ou même le milieu, il y a un langage, il y a une phraseologie particulière parce qu'il y a une identification. N'oubliez pas qu'on ne doit jamais s'identifier, nous, en tant que chrétiens, à une culture d'église particulière. Bon, on appartient à une église, on bénit le Seigneur, mais c'est à Christ qu'on doit s'identifier. Et ça, c'est important. Et ça nous sauvera de beaucoup de choses. Parce que Jésus ne bouge pas, lui. Hein. Mais je peux vous dire que les modes, ça change. Et n'allons pas nous penser supérieurs aux autres. Il y a aussi des modes chez nous. Ressembler à son idole. Alors, si vous ressemblez à Jésus, ben, c'est bien, c'est formidable. C'est magnifique, c'est merveilleux. À n'en pas douter, l'Antéchrist en tant qu'homme sera une idole vivante qui éblouira ses adeptes. Enfin, image vivante, parce que la parole de Dieu nous déclare formellement que le monde, tout en ayant les apparences de la vie, est mort. Il est mort moralement et il est mort spirituellement, tout en donnant l'illusion physiquement, corporellement, qu'il est bien vivant. Mais moralement et spirituellement, il est mort. C'est un verdict. Et vous savez de quoi il vient, ce verdict. La cause et la raison de ce verdict, c'est tout simplement le péché. Et ça, il faut le dire. Cette image rendue vivante, attention, hein, cette image rendue vivante donnera l'illusion de la vie. Et les hommes se trémousseront. Ils courront d'un endroit à un autre. Ils feront toutes sortes de sacrifices. Ils ne regarderont pas la dépense. Et ils diront, nous avons la vie, nous avons la liberté. Mais ce n'est qu'une illusion, tout simplement. Seulement l'apparence. Dans un ordre totalement différent, mais au résultat semblable, de fascination, induisant les foules croyantes dans l'erreur funeste, on peut citer toutes les apparitions pseudo-spirituelles. Vous savez ce que c'est ? Il y a les apparitions spirituelles de Jésus, de la révélation, on peut dire. Mais il y a aussi sa contrefaçon. Pseudo, j'ai dit, hein ? À travers toutes sortes de choses. Avec à la clé des révélations secrètes. Méfiez-vous donc des révélations secrètes, mes frères et sœurs. Il y a une révélation, c'est la parole de Dieu, elle est amplement suffisante. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Oui, révélation, tout simplement secrète, concernant l'avenir du monde. J'en parlais dernièrement. Il paraît que la fin du monde, c'est pour la fin 2012, 21 décembre. Alors attendez, hein, fêtez Noël avant, parce qu'autrement, vous n'allez pas y arriver. Hein. Et l'inspiration, dites donc, hein. Un mélange de christianisme, d'occultisme, de bouddhisme, d'islam, etc., etc. Ça s'appelle le syncrétisme. Attention. Hein. Et le monde est relayé par les médias, ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Mais alors attendez, quand on va approcher. Hein. Wow. L'Antéchrist saura manier l'occulto-religieux. Ça, c'est un, ça sera véritablement sa force. Et il ralliera par ce moyen des foules immenses, des gens, il faut bien reconnaître, des gens sincères, mais honteusement abusés, et qui n'auront pas le recul de vérifier. Parce que c'est ainsi que les choses se passeront, parce que ce sont des gens qui seront dans l'ignorance, ils resteront dans l'ignorance. Cependant, derrière une façade de grande tolérance, il arrivera un temps où quiconque n'entrera pas dans le moule. La bête fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Ça, c'est le texte que nous avons lu. Inimaginable de prime abord, naturellement. Mais voilà comment l'Antéchrist s'y prendra. Vous voulez savoir comment ? C'est terrible, hein ? Comment il va s'y prendre ? Et nous lisons le verset 16 et 17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque de la main sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Pas de privilège ni de quartier. Vous avez vu la description qui est donnée ? Personne n'échappera. L'hégémonie de l'Antéchrist et de son régime couvrira toutes les conditions sociales. Ce n'est pas parce qu'on sera roi ou qu'on sera tout simplement manant, qu'on soit ici ou là, que l'on ait un titre ou une réputation ou que n'en ait pas. Ça sera le monde entier. On l'a lu ensemble. Sans distinction ni exception, chacun recevra une identification caractéristique et personnalisé sous la forme d'une marque. Je suis allé un jour dans un parc d'attractions, et bon, j'avais payé mon droit d'entrée, et quand j'ai voulu ressortir pour aller à ma voiture pour vouloir rentrer, on m'a fait passer sous un scanner, vous savez. Enfin, j'ai pas passé le scanner, hein. Ils m'ont rien trouvé, finalement, de bien grave. Mais toujours est-il que, voilà, simplement, j'avais rien du tout. Et quand je suis repassé, j'ai pu rentrer. Je ne l'aurais pas fait, je ne rentrerai pas. J'étais obligé de repayer. Alors bon, code barre ou tout ce que vous voudrez, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne spéculait pas. Mais on invente des techniques qui sont assez étonnantes. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Sous la forme d'une marque, nous est-il dit, tout simplement, portée sur la main droite ou sur leur front. La main, je le rappelle, est le symbole du travail et de l'activité des hommes. Voilà. Et le front, c'est celui de l'intelligence. En d'autres termes, tout ce que l'homme produit de ressources pour vivre est de là à en conclure la plus terrible des dictatures qui n'ait jamais existé, qui n'a jamais été imaginée. À partir du moment où vous empêchez les gens de travailler, que vous empêchez les gens d'œuvrer, de faire ce qu'ils ont à faire avec leurs mains, ou que vous les touchez au niveau de leur cerveau, c'est terminé. Ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent plus rien faire. Alors la marque, certains ont décrété que ça serait quelque chose de très significatif. Ça va l'être peut-être, mais moi je ne vais pas vous dire comment ça va se passer. Bien que la petite puce, elle existe déjà, hein, vous le savez. Mais une chose que je voudrais vous dire quand même, c'est que finalement la marque de la bête, elle a commencé déjà depuis le début, depuis les temps premiers, hein, sous une forme ou sous une autre. Parce que ça va beaucoup plus loin qu'une marque. Je dirais que c'est une marque peut-être, mais c'est un état d'esprit. L'homme est marqué par un état d'esprit, de pensée. Et ce contrôle draconien aura pour résultat que l'existence même ne sera plus possible. Manger, s'habiller, se loger, commercer, acheter, vendre. En d'autres termes, les libertés élémentaires seront réduites, restreintes, qu'à la condition express d'être marqué, soit d'avoir l'autorisation, l'accréditation, l'homologation du pouvoir. Et de là, à adorer la bête. Si vous ne l'adorez pas, vous n'êtes plus vivant. Enfin, vous n'êtes plus vivant, en tous les cas, vous n'êtes plus de cette société, de ce monde, dans ce système. On y va, hein ? Non ? Vous savez, vous vous rendez compte ? On ne peut plus rouler à la vitesse qu'on veut maintenant. Hein. Eh oui, enfin je veux pas, mais c'est vrai que tout est contrôlé. tout va, parce qu'il y a les moyens, hein, naturellement, avec l'informatique. Et c'est vrai, bon, il y a des choses qui sont certainement tout à fait justes pour le bien, la préservation des hommes. Hein, ça, c'est sûr, c'est tout à fait normal. Mais ça passera sous ce couvert de faire du bien dans un moment, pour que ça soit plus pratique, pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit plus... voilà, etc. Tous les plus sont réunis. Mais on n'a pas vu les moins. On n'a pas vu les moins qui vont entamer ce que Dieu a donné à l'homme, c'est-à-dire la liberté. Son libre arbitre de choisir, de faire finalement, eh bien, non pas ce qu'il veut, mais de faire des choix entre choisir le bien et le mal, entre choisir ceci, cela, naturellement. Sans cela, aucune existence légale. Je pense au quart-monde. Je pense aux exclus sociaux, aux chômeurs, aux opposants politiques. Je pense également aux objecteurs de conscience en tout genre. Vous savez, quand vous ouvrez le livre, le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, et il nous est dit qu'il est parlé de trafic, de toutes sortes de choses, du corps et des âmes d'hommes. On y viendra bientôt dans cette explication. La marque, le nom de la bête, nous dit le texte, et le nombre de son nom. Ce nombre est ouvertement révélé. Il reste un mystère, naturellement, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, sa parole. Mais pour nous, c'est différent. Le verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous allez dans la ville de Saint-Nazaire et vous regardez sur les affiches de certains concerts, festivals ou autre chose. J'ai remarqué ça, hein. C'est souvent marqué 666. Alors, métal, hard rock, et puis j'en passe des meilleurs, parce que moi, j'ai vieilli quand même depuis. Hein. Ça se voit, hein. Je suis peut-être plus dans le coup, mais quand même... Eh oui, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. C'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Alors, je vais être bref. En déduction, 6, c'est le chiffre de l'homme. Écoutez bien. 7, c'est le chiffre de Dieu. Celui de la perfection et de l'achèvement total, complet et parfait. 666, trois chiffres qui se suivent, mais qui jamais ne se réuniront. 6, 6, 6, ce qui veut dire qu'on peut mettre autant de 6 à l'infini, ça ne fera jamais 7. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce chiffre 666, c'est le symbole du triple échec, parce que l'homme a été créé le sixième jour. Ah, c'est dommage qu'on n'était pas dans le septième. Tout le monde veut aller au septième ciel. Enfin, là, c'est encore une autre théologie religieuse. Autre chose. Sixième jour. Voilà. Et pour attendre le septième jour, il faut naître de nouveau par la rédemption dans la foi en Jésus-Christ. On est d'accord? La clé, elle est là. Hein, d'accord. 6 veut dire rater le but, donc c'est un échec. Et cet échec, ça s'appelle tout simplement le péché, rater la cible. C'est le chiffre type de l'humanité perdue. Et ça, c'est quand même important de le souligner. La conclusion de ce chiffre, c'est que c'est le chiffre de l'homme, je l'ai dit, qui aura beau déployer tous ses efforts pour égaler Dieu, pour se faire l'égal de Dieu, pour se faire peut-être même supérieur à Dieu, il n'y parviendra jamais. Là, il y a une barrière. Pas plus que le chiffre 666 n'est 7, pas davantage, l'homme n'est Dieu. Il se croit peut-être Dieu, mais il ne l'est pas. 666 est le chiffre qui marque le point culminant de la prétention orgueilleuse humaine pour atteindre la hauteur parfaite de Dieu et de Christ. Et l'homme peut grimper, il peut s'en faire des tours de Babel superposées. Il n'y arrivera jamais. Vous mettez 666 tout autour de la terre, en long et en travers, ça ne fera jamais 7, ça sera toujours 6, quoi qu'il en soit. J'ajoute ceci, c'est que 666 trois fois, ça approche de 7, mais sans pouvoir l'atteindre. Comme s'il y avait une barrière. Comme la Trinité diabolique, 666, chiffre de la bête, incarne, matérialise, personnifie, se personnifie par le diable, l'antéchrist et le prophète. Vous voyez, les trois. Hein ? Car la bête se glorifie et se glorifie dans le monde qui l'adore. Tout simplement. L'homme qui ne veut plus être un homme et ses découvertes, sa technologie, son orgueil, sa science et tout le reste, autant de tours de Babel pour dire « nous allons maintenir jusqu'au ciel ». Eh bien, l'homme qui ne veut plus être un homme, mais un Dieu, et qui emploie toutes ses forces, et nous le voyons dans notre monde d'aujourd'hui, toutes ses énergies, toutes ses ruses, toute son habileté pour n'aboutir qu'à être qu'une monstruosité. Alors, je vais peut-être être mis en prison avec ça. Mais pour aboutir qu'à une monstruosité, cette pitoyable caricature de l'homme idéal, c'est Christ. Et l'homme se dit, mais comment devenir semblable à Christ sans passer par la repentance, par la nouvelle naissance, par la conversion, passer par la vie de l'esprit, passer par la mort à soi-même. Et ça, le monde n'est pas prêt, au contraire. C'est tout à fait l'inverse. Alors, il se dit un surhomme, cet homme, mais il devient un faux Dieu et il devient une bête. Vous allez me dire, j'exagère. Vous savez, quand on voit le comportement de notre humanité, je veux bien croire qu'il y a des braves gens, qu'il y a des gens qui ont une morale, etc., etc. Mais quand on voit les sous-produits de la science, ne serait-ce que faire un petit tour 70 ans en arrière et de voir l'industrialisation de la mort à grande échelle, et attendez, on n'a pas tout vu. Hein. Une bête. Et pourtant, ô combien cette société dont vous avez deviné le nom et la doctrine et l'idéologie se voulaient envoyer les gens dans les chambres à gaz avec de la musique de Wagner et tout le reste. C'est terrible. Terrible. Alors si ça, c'est déjà dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y aura demain ? Qu'est-ce qu'il y aura demain ? Voilà la signification de son nom, la bête qui monte de la terre ou l'antéchrist. Illusion insensée. Nous rappelle l'apôtre Paul, quand il dit qu'elle voudra s'asseoir jusque sur le trône de Dieu. Ultime aboutissement de la tentation originelle, quand le serpent susurre à Ève, mais Dieu aurait-il réellement dit ? Et qui lui dit, mais si tu fais comme tu as envie de faire, mais tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux en prendre autant que tu veux parce que tu seras comme Dieu. Tu auras la vie éternelle et tu auras la connaissance du bien et du mal. On est en train de sucer, de se délecter comme d'une gourmandise, comme d'une friandise, finalement, du mensonge de l'adversaire aujourd'hui. L'homme a besoin de se repentir. Il a besoin de se convertir à Jésus-Christ. Il a besoin de naître de nouveau et devenir une autre créature. Il y a bien d'autres. Suprême folie de l'orgueil. Oui, je dis bien suprême folie de l'orgueil. Quand le prophète Ésaïe, de la part de Dieu, inspiré par Dieu, nous dit au chapitre 14 et au verset 13 et 15, il dit ceci, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire le plus haut de la terre. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Dieu, au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ? Moi, je dis et j'affirme que c'est Dieu qui sera vainqueur contre le mal, contre les ténèbres et contre la mort. Vous n'avez pas à avoir peur, frères et sœurs. Quelqu'un me disait dernièrement, mais l'Apocalypse, oh là là, il faut attacher sa ceinture. Voilà, vous allez rester bien en place et on va aller jusqu'au bout. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors on n'a rien à craindre. C'est notre foi qui va faire la différence. Naturellement. Je termine pas le livre de l'Apocalypse parce que c'est au mois de mai prochain. Hein. Mais je termine ma réflexion d'aujourd'hui. Souvenons-nous. Avertissement relatif à la bête qui monte de la mer. Donc, le système et l'empire. L'avertissement qui était donné dans notre première méditation, c'est ici la persévérance et la foi des saints. où nous sommes exhortés, nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, à l'endurance et au support. Surtout en raisonnant avec cette parole que Jésus nous a laissée, a laissée à ses disciples pour tous les temps. J'ai vaincu le monde, prenez courage. J'ai vaincu le monde, prenez courage. Quant à l'avertissement qui concerne la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire notre méditation d'aujourd'hui, l'Antéchrist, il est formulé autrement. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Cette intelligence consiste simplement et humblement, parce qu'il faut être humble, à croire et accepter la révélation que nous fait la parole de Dieu, sans spéculer, sans douter, sans contester, comme la vérité. Elle est voilée pour un temps, elle nous est découverte, mais elle est voilée quand même pour un temps, mais qui paraîtra bientôt au grand jour. Et attention, ne l'oublions jamais, ne l'oublions pas, l'Écriture sainte est prophétique. Autrement, ça n'aurait pas lieu d'ouvrir le livre de l'Apocalypse. À chacun de la croire, cette parole de Dieu, et ça, c'est de la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu nous as rendus capables de croire à cette bonne nouvelle, parce que nous serions comme le reste des hommes et loin de nous, Seigneur, de juger, loin de nous de condamner, en pensant que nous serions meilleurs que les autres, que nous aurions quelque chose de plus que les autres, que notre connaissance serait supérieure. Non, nous sommes des hommes comme les autres. Nous faisons partie de cette humanité. Mais tu nous as appelés pour que nous puissions porter les vertus de Christ et surtout sa parole. Et ainsi, Seigneur, dire tout simplement que Christ viendra bientôt, le vainqueur. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus toutes ces tragédies que nous connaissons aujourd'hui, puisque, en effet, le bonheur et la grâce, en effet, eh bien, sera réalisé complètement, totalement, parfaitement. Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, tu leur fais du bien et tu les encourages. Oui, Seigneur, parce que nous savons que nous avons besoin d'être encouragés. Et l'Apocalypse, c'est une consolation et c'est une exhortation à te faire confiance. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.